Bonjour, Marco, compte à rebours. Compte à rebours, eh bien, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est d'un compte à rebours? Eh bien, des histoires, comme toujours, des contes, hein, on va dire, des contes, des légendes. Mais aujourd'hui, c'est une nouvelle, bah, pourquoi pas, hein, après tout, c'est bien, le neuf, le nouveau. Une nouvelle d'Anna Gavalda, qui vient d'un recueil qui s'appelle « Des mots pour la vie ». C'est, je crois, pour lutter contre... l'analphabétisation avec tout un tas d'auteurs. C'était en fait, ça doit être des commandes, ça. Ils trouvent des auteurs et leur demandent de faire des nouvelles. Philippe Delerm, Michel Fitoussi, Anna Gavalda, Hubert Haddad, etc., etc. Donc, ce sont des bonnes nouvelles. Et bien voilà, j'en ai choisi une. Et puis après, j'ai quelques histoires plus courtes, des histoires sur la culpabilité et l'innocence. Vous verrez, hein, et l'humilité, voilà. Bref, une émission compte à rebours, comme toujours, et avec des musiques. Cette semaine, on sera avec à la musique... Eh bien, ni plus ni moins que Marc Perron, voilà, qui accompagnera cette histoire. Et puis les autres histoires, c'est toujours de l'accordéon, c'est plus Marc Perron, ce doit être Paris Musette, un disque comme ça. Aujourd'hui, c'est que de l'accordéon. Eh bien, en introduction, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, voilà, c'est fait l'introduction. Je vous ai annoncé une nouvelle d'Anna Gavalda. Écoutez plutôt. Cette fille, je l'aime. J'ai envie de lui faire plaisir. J'ai envie de l'inviter à déjeuner. Une grande brasserie avec des miroirs et des nappes en tissu, m'asseoir près d'elle. Regarder son profil, regarder les gens tout autour et tout laisser refroidir. Je l'aime. D'accord, me dit-elle, mais on va au McDonald's. Elle n'attend pas que je bougonne. Ça fait si longtemps, ajoute-t-elle en posant son livre près d'elle. Si longtemps. Elle exagère. Ça fait moins de 2 mois. Je sais compter. Mais bon, cette jeune personne aime les nuggets et la sauce barbecue qui puige. Si on reste ensemble assez longtemps, je lui apprendrai autre chose. Je lui apprendrai la sauce gribiche et les crêpes Suzette, par exemple. Si on reste ensemble assez longtemps, je lui apprendrai que les garçons des grandes brasseries n'ont pas le droit de toucher nos serviettes, qu'ils les font glisser en soulevant la première assiette. Elle sera bien étonnée. Il y a tellement de choses que je voudrais lui montrer, tellement de choses. Mais je ne dis rien. Je prends mon par-dessus en silence. Je sais comment sont les filles avec l'avenir. Juste prometteuses. Je préfère l'amener dans ce putain de McDo et la rendre heureuse un jour après l'autre. Dans la rue, je la complimente sur ses chaussures. Elle s'en offusque. Ne me dis pas que tu ne les avais jamais vues, je les ai depuis Noël. Je pique du nez, elle me sourit. Alors je la complimente sur ses chaussettes. Elle me dit que je suis bête. Tu penses si je le savais? C'est la plus jolie fille de la rue. J'éprouve un haut le cœur en poussant la porte. D'une fois sur l'autre, j'oublie à quel point je hais les McDonald's. Cette odeur, graillon, laideur et vulgarité mélangée. Pourquoi les serveuses se laissent-elles ainsi enlaidir? Pourquoi porter cette visière insensée? Pourquoi les gens font-ils la queue? Pourquoi cette musique d'ambiance? Et pour quelle ambiance? Je trépigne. Les gens devant nous sont en survêtement. Les femmes sont laides et les hommes sont gros. J'ai déjà du mal avec l'humanité. Je ne devrais pas venir dans ce genre d'endroit. Je me tiens droit et regarde loin devant moi, le plus loin possible. Le prix du menu Best of Mac Deluxe. Elle le sent. Elle sent ces choses. Elle prend ma main et la presse doucement. Elle ne me regarde pas. Je me sens mieux. Son petit doigt caresse l'intérieur de ma paume et mon cœur fait zigzag. Elle change d'avis plusieurs fois. Comme dessert, elle hésite entre un milkshake ou un sundae caramel. Elle retrousse son mignon petit nez, tortille une mèche de cheveux. La serveuse est fatiguée et moi, je suis ému. Je porte nos deux plateaux. Elle se tourne vers moi. Tu préfères le coin fumeur, j'imagine. Je hausse les épaules. Si, tu préfères, je le sais bien. Elle m'ouvre la voie. Ceux qui sont mal assis raclent leurs chaises à son passage. Des visages se tournent. Elle ne les voit pas. Impalpable dédain de celles qui se savent belles. Elle cherche un petit coin où nous serons bien tous les deux. Elle a trouvé, me sourit encore. Je ferme les yeux en signe d'acquiescement. Je pose notre pitance sur une table dégueulasse. Elle défait lentement son écharpe, dodeline trois fois de la tête avant de laisser voir son cou gracile. Je reste debout comme un granigot. Pourquoi tu ne t'assieds pas? Je te regarde. Tu me regarderas plus tard. Ça va être froid. Tu as raison. J'ai toujours raison. Presque toujours. Petite grimace. J'allonge mes jambes dans l'allée. Je ne sais pas par quoi commencer. J'ai déjà envie de fumer. Je n'aime rien de tous ces machins emballés. Un garçon au crâne rasé est interpellé par deux braillards. Je replie mes jambes pour laisser passer ce morveux. J'ai un moment de doute. Que fais-je ici? Avec mon immense amour et ma pochette turquoise. J'ai ce réflexe imbécile de chercher un couteau et une fourchette. Elle me dit « Tu n'es pas heureux ?»« Si, si, alors mange !» Je m'exécute. Elle ouvre délicatement sa boîte de nuggets comme s'il s'était agi d'un coffret à bijoux. Je regarde ses mains. Elle a mis du vernis violet nacré sur ses ongles, couleur aile de libellule. Je dis ça, je n'y connais rien en couleur de vernis, mais il se trouve qu'elle a deux petites libellules dans les cheveux. Minuscules barrettes inutiles qui n'arrivent pas à retenir quelques mèches blondes. Je suis ému. Je sais, je radote, mais je ne peux m'empêcher de penser. Est-ce pour moi, en pensant à ce déjeuner, qu'elle s'est fait les ongles ce matin? Je l'imagine concentrée dans la salle de bain, rêvant déjà à son sundae caramel et à moi, petit peu fatalement. Elle trempe ses morceaux de poulet décongelés dans leur sauce chimique. Elle se régale. Tu aimes vraiment ça? Vraiment? Mais pourquoi? Sourire triomphal. Parce que c'est bon. Elle me fait sentir que je suis un ringard, ça se voit dans ses yeux. Mais du moins le fait-elle tendrement. Pourvu que ça dure, sa tendresse, pourvu que ça dure. Je l'accompagne donc. Je mastique et je déglutis à son rythme. Elle ne me parle pas beaucoup, mais j'ai l'habitude. Elle ne me parle jamais beaucoup quand je l'amène déjeuner. Elle est bien trop occupée à regarder les tables voisines. Les gens la fascinent, c'est comme ça. Même cette énergumène qui s'essuie la bouche et se mouche dans la même serviette juste à côté a plus d'attrait que moi. Comme elle les observe, j'en profite pour la dévisager tranquillement. Qu'est-ce que j'aime le plus chez elle? En numéro un, je mettrai ses sourcils. Elle a de très jolis sourcils, très bien dessinés. Le bon Dieu devait être inspiré ce jour-là. En numéro deux, ses lobes d'oreille, parfait. Ses oreilles ne sont pas percées. J'espère qu'elle n'aura jamais cette idée saugrenue. Je l'en empêcherai. En numéro 3, quelque chose de très délicat à décrire. En numéro 3, j'aime son nez, ou plus exactement les ailes de son nez. Ces deux petites courbes de chaque côté, délicates et frémissantes, roses, douces, adorables. En numéro 4, mais déjà, le charme est rompu. Elle a senti que je la regardais, et minaude en pinçant sa paille. Je me détourne, je cherche mon paquet de tabac, en tâtant toutes mes poches. Tu l'as mis dans ta veste. Merci. Qu'est-ce que tu ferais sans moi, hein? Rien. Je lui souris, en me roulant une cigarette. Mais je ne serai pas obligé d'aller au McDo le samedi après-midi. Elle s'en fiche de ce que je viens de dire. Elle attaque son sundae. Du bout de sa cuillère, elle commence par manger tous les petits éclats de cacahuètes. Et puis, tout le caramel. Elle repousse ensuite au milieu de son plateau. Tu ne le finis pas? Non. En fait, je n'aime pas les sundaes. Ce que j'aime, c'est juste les bouts de cacahuètes et le caramel, mais la glace, ça m'écœure. Tu veux que je leur demande de t'en remettre? De quoi? Eh bien, des cacahuètes et du caramel. Ils ne voudront jamais. Pourquoi? Parce que je sais, ils ne veulent pas. Laisse-moi faire. Je me lève en prenant son petit pot de crème glacée et me dirige vers les caisses. Je lui fais un clin d'œil. Elle me regarde amusée. Je balise un peu. Je suis son pro-chevalier investi d'une mission impossible. Discrètement, je demande à la dame un nouveau sundae. C'est plus simple. C'est plus sûr. Je suis un pro-chevalier prévoyant. Elle recommence son travail de fourmi. J'aime sa gourmandise. J'aime ses manières. Comment est-ce possible? Tant de grâce, comment est-ce possible? Je réfléchis à ce que nous allons faire ensuite. Où vais-je l'amener? Que vais-je faire d'elle? Me donnera-t-elle sa main tout à l'heure quand nous serons de nouveau dans la rue? Reprendra-t-elle son charmant pépiment là où elle l'avait laissé en entrant? Où en était-elle d'ailleurs? Je crois qu'elle me parlait des vacances. Où irons-nous en vacances cet été? Mon Dieu, ma chérie, mais je ne le sais pas moi-même. Te rendre heureuse un jour après l'autre, je peux essayer, mais me demander ce que nous ferons dans 6 mois, comme tu vas. Il faut donc que je trouve un sujet de conversation en plus d'une destination de promenade. Preux, prévoyant, inspiré. Les bouquinistes, peut-être. Elle va râler encore. Non, elle ne va pas râler. Elle aussi aime me faire plaisir. Et puis, pour sa main, elle me la donnera. Je le sais bien. Elle plie sa serviette en deux avant de s'essuyer la bouche. En se levant, elle lisse sa jupe et réajuste le col de son chemisier. Elle prend son sac et me désigne du regard l'endroit où je dois reposer nos plateaux. Je lui tiens la porte. Le froid nous surprend. Elle refait le nœud de son écharpe et sort ses cheveux de dessous son manteau. Elle se tourne vers moi. Je me suis trompé. Elle ne me donnera pas sa main puisque c'est mon bras qu'elle prend. Cette fille, je l'aime. C'est la mienne. Elle s'appelle Valentine et n'a pas 7 ans.
M'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, et regarder les gens tant qu'il y en a. Te parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra, en serrant dans ma main tes petits doigts. Puis donner à bouffer à des pigeons idiots, leur filer des coups de pied pour de faux. Et entendre ton rire qui les arde les murs, qui sait surtout guérir mes blessures. Te raconter un peu comment j'étais minot, les bons becs fabuleux. Compliqué chez le marchand, car en sac et minto, caramel à 1 franc, et les Mistral gagnants. À marcher sous la pluie, 5 minutes avec toi, et regarder la vie tant qu'il y en a. Te raconter la terre en te bouffant des yeux, te parler de ta mère un petit peu. Et sauter dans les flaques pour la faire râler, bousiller nos godasses et se marrer. Et entendre ton rire comme on entend la mer s'arrêter, repartir en arrière. Te raconter surtout les carambars d'antan et les cocoboères. Et les frères aux doudous qui nous coupaient les lèvres et nous niquaient les dents. Et les mistral gagnants. M'asseoir sur un banc, cinq minutes avec toi, regarder le soleil qui s'en va. Te parler du bon temps qui est mort et je m'en fous. Te dire que les méchants c'est pas nous. Que si moi je suis barge, ce n'est que de tes yeux, car ils ont l'avantage d'être deux. Et entendre ton rire s'envoler aussi haut que s'envolent les cris des oiseaux. Te raconter enfin qu'il faut aimer la vie et l'aimer même si le temps est assassin et emporte avec lui les rires des enfants et les mistral gagnants et les mistral gagnants.
Donc, quelques vieilles histoires sur la vérité, sur l'innocence, sur le mensonge. La vérité seul triomphe. Écoutez ça. Un roi, visitant une prison, commença à interroger les détenus. Chacun, prisonnier après prisonnier, insistait sur le fait qu'il était innocent. Il était victime d'une fausse accusation, d'une terrible injustice qui avait été commise. Et le roi passa ainsi tous les détenus en revue et tous proclamaient haut et fort leur innocence. Lorsque le roi arriva au dernier prisonnier, il lui dit « Et vous également, vous êtes aussi innocent qu'un agneau, je suppose. »« Non, votre majesté, je suis un voleur. J'ai été pris, jugé, équitablement et condamné. »« Vous admettez que vous êtes un voleur ?» demanda le roi tout surpris. « Oui, votre majesté. » Le roi dit « Jetez cet escroc loin d'ici !» Le voleur fut promptement expulsé de la prison. Mais alors tous les autres prisonniers élevèrent alors une clameur craintive « Votre majesté, comment pouvez-vous faire une telle chose? Comment pouvez-vous libérer un criminel qui a avoué alors que... » « Je crains, reprit le roi en souriant, que ce vilain chenapan ne corrompe vos âmes innocentes. » Le gouverneur d'une province tsariste dans le temps, qui était connu pour sa haine féroce des Juifs, fit comparaître devant lui le grand rabbin de la communauté régionale à qui il tint ce langage. « Nous remettons la destinée de votre peuple entre les mains de Dieu. Je place dans cette boîte deux morceaux de papier. Sur l'un est inscrit « coupable », sur l'autre « innocent ». C'est vous qui choisirez. » Le gouverneur, en réalité très peu désireux de prendre le risque de voir le hasard desservir ses desseins destructeurs, avait inscrit « coupable » sur les deux bouts de papier. Le rabbin plongea sa main dans l'urne en retirant un des papiers et aussitôt, il l'avala. « Que faites-vous ? » s'écria le gouverneur. « Comment serons-nous ? » Ben, « C'est très simple, » dit posément le rabbin. Vous n'avez qu'à lire le bulletin qui reste dans la boîte. S'il porte la mention innocence, c'est que sur le papier que j'ai avalé était marqué coupable. Mais s'il est écrit coupable, alors celui que j'ai avalé portait le verdict innocent. À la fin de sa vie, Saint Jean Bosco fit un voyage triomphal en France. On le fêtait comme un grand éducateur. Reçu dans un château, on apporte une tarte. Une dame, se penchant sur sa voisine, se met à glousser. « C'est un saint. Vous allez voir qu'il va prendre un tout petit morceau. » Don Bosco se servit un morceau énorme. La voisine répliqua doucement « On voit bien que c'est un saint. Il veut par ce geste nous faire entendre qu'il ne l'est pas. Quelle humilité !» Quand il rentra à Turin, Don Bosco, qui avait tout entendu, raconta cette histoire à ses fils spirituels et leur donna la conclusion. Voyez-vous, dans la vie, le tout, c'est de jouir d'une bonne réputation. Avec cela, on peut tout se permettre.
Oui, la mélodie, le fond du soir à café. Écoute, c'est le blues du coin, le blues, il joue du bignou comme Févac. Une chanson pucelle aux ailes déployées. Ravelant, galbatros, piqué, tram au papier, le café, la falaise, balèze. J'écoutais Montalbanaise, une envolée de braise. Noyé, jumeau de vigueur, viseur au cœur, liqueur, sœur. À cloche, pied, cigarette, une bouffée volée. Au vent de la postérité. Allez, vas-y, va, chaloupe, ta mélopée, ma chanson de café. Charlie passe par cœur, El Gus Sauvignon souffle aussi comme Black au sax. Si le bebop a passé de vaisselle évolue, blues et volca piqué, tant tu nous réconcilies, m'entends-tu d'accordéon. Montaigne c'était tout petit, le paradis l'était. Ça va pâti d'ada flou, bon rame et balle d'amour flou. Mais un souffle dévoilé, une poussée bleue d'envie, m'accroche au cœur, thank you, vise. Et seuls les griffes le temps vont mis les doigts de corde. Apache, Django, Mississippi, Didi, guitare aussi, m'a dit. Et Paris, ou Paris, pris le temps au bord de Marne. Chavire la valse sous un temporel et blues. Ta goutte, c'est divine, Milady valsée. Fille et femme, tam-tam, au fil du temps, funambule et modernité. Jette à l'eau du calme un caillou ricoché. Parents dedans de la passe, passe des coups des papilles au-delà du top. Réveillez la mélodie, la chanson des cafés. Vocalise la bombe, French, café valsé, one more knock. Comme un souffle dévoilé, une poussée bleue d'envie. Accroche le cœur, thank you, viseur.
Compte à rebours 144, adjugé, terminé, bouclé. Et oui, on est arrivé au bout avec ce qu'il faut de musique. Eh bien, voilà, j'ai eu plus rien à dire. Sinon, eh bien que ça reprendra la semaine prochaine, mercredi prochain, comme toujours. Donc, je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien. C'était Marco. Ciao.